Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Je reçois l'auteur du livre, Frère Alexandre de Garidel. Bonjour frère.
Bonjour Nathalie.
Vous êtes prieur du couvent des Carmes à Paris et auteur de cet ouvrage qui est paru il y a quelques mois, mais un ouvrage et un thème d'actualité. Ce livre, je le rappelle et je le conseille aux éditeurs, Dieu crève l'écran, repère spirituel en temps d'hyperconnexion, où vous êtes bien connecté aussi avec le pape Léon XIV qui vient donc de sortir cette encyclique en rapport aussi avec l'intelligence artificielle, un écho important pour vous ?
Oui, tout à fait. Et notamment, j'ai été très heureux de découvrir dans l'encyclique du pape, Magnifique Humanité, plusieurs fois, il revient, et ce que j'évoque au début de mon livre, sur le fait que les écrans ne sont pas neutres. Il dit cette très belle phrase que les écrans ont le visage de ceux qui les façonnent, qui les finance et qui les utilise. Et ça revient plusieurs fois dans l'encyclique et je suis très heureux parce que pour moi, c'est vraiment une prise de conscience qui se fait, je pense, actuellement, mais qui n'était pas le cas il y a 2-3 ans. On avait un regard très instrumental sur les écrans en disant « tout dépend de la façon dont on les utilise ». Vous voyez, ça, c'était un peu la réflexion assez classique. Sauf que pour ce monde-là, ça ne marche pas parce qu'ils sont pensés par des gens, les grands acteurs de numérique, en vue de nous rendre dépendants, en vue de nous rendre consommateurs. Donc il n'y a pas de neutralité en réalité. Il y a une orientation qui vient chercher en nous, y compris grâce ou à cause des neurosciences, des mécanismes de fonctionnement qui ne vont pas nous grandir, mais qui vont plutôt nous avilir. Donc ne disons plus que les écrans sont neutres ou que l'IA est neutre et que ça dépend... Non, ça dépend de ceux qui les ont conçus.
Ils ont un réel impact. Alors, au fond, le combat, peut-être le combat de ce troisième millénaire, c'est de préserver, et je pense que c'est aussi un élément qui vous tient très très à cœur, de préserver cette intériorité, cette vie intérieure. Alors, l'homme moderne aurait-il peur de cette vie intérieure aujourd'hui, se laissant prendre, peut-être manger, dévorer, captiver aussi par tous ces écrans qui sont autour de lui?
Oui, alors pour tout dire, le titre initial de l'ouvrage devait s'appeler « L'urgence intérieure ». Voilà, bon, puis il y a un truc, c'était pas assez vendeur, donc il y a eu un deuxième titre. Mais effectivement, mon propos, c'est vraiment de dire ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce qui est vraiment urgent, c'est de préserver notre vie intérieure, alors même que la tendance humaine, effectivement, c'est d'aller vers ce qui est le plus grisant, le plus superficiel. Et encore une fois, je citais Pascal, Blaise Pascal, dans l'entretien précédent, qui, au XVIIe siècle, décrit déjà en France, avec les divertissements de l'époque, qui sont sans écran évidemment, la tendance humaine à aller vers l'extérieur. Mais aujourd'hui, on est capable, grâce ou à cause des écrans, à passer nos journées dans ce divertissement via des séries, via des jeux connectés ou des vidéos qui n'en finissent pas, en dehors de nous-mêmes, en dehors de notre réalité, de notre vie profonde, et de devenir des sortes de zombies, voilà, ou de hamsters qui ne vivent pas, mais qui survivent, qui n'habitent pas leur vie. Et c'est dramatique. Et c'est dramatique, parce que qu'est-ce que c'est qu'une personne humaine qui ne vit pas, qui n'habite pas sa vie ? Ben, ce n'est plus une personne humaine. Elle l'est potentiellement, mais elle vit comme un robot, ou comme une forme d'animal. Donc il y a vraiment, effectivement, une urgence à non pas reprendre contrôle, mais en tout cas à choisir d'habiter notre vie humaine.
Réapprivoiser peut-être.
Ou réapprivoiser, si vous voulez, tout à fait, toutes nos couches, si je puis dire, nos différentes dimensions de profondeur. Et là, j'oppose vraiment le monde des écrans dans leur platitude. Voilà, typique des écrans, ils sont plats, ils n'ont pas de relief. Et la vie intérieure qui est caractérisée par la profondeur. La profondeur, la nuance, une forme de langage propre qui a besoin de s'élaborer et qui va nous chercher un niveau plus profond, plus vrai, plus existentiel. Et donc là, nous avons un choix à faire, qui est un choix au quotidien, de dire est-ce que nous voulons survivre et vivre dans une forme de platitude, d'écrasement des niveaux, ou est-ce que nous voulons vivre en profondeur, dans des vraies émotions beaucoup plus profondes que les choses superficielles, et il faut prendre le temps de descendre.
il est question du salut de l'âme. Mm-hmm. Si on va un petit peu plus loin, l'homme est en mouvement, l'homme debout, vivant, l'homme qui est, permettez-moi, mais en écoutant aussi et en parlant des écrans, de ce numérique qui nous entoure, l'homme devient dépendant, quelque peu anesthésié face à tous ces écrans. Comment va-t-il pouvoir, par quels moyens, retrouver cette stature d'homme vivant et debout?
Ben moi, je le dis, je pense qu'on peut utiliser ici la pédagogie que propose l'Église pendant le carême, voilà, qui est une pédagogie de mettre à distance un certain nombre d'activités ou de choses qui ne sont pas nécessairement mauvaises en elles-mêmes, sinon on ne le ferait pas du tout, mais qui prennent trop de place ou de temps dans notre vie. Et d'appliquer cette pédagogie au reste de l'année pour mettre en place des rituels de déconnexion, idéalement chaque jour, chaque semaine, chaque mois, avec des variations qui sont différentes. Voilà. Ne serait-ce que des temps privilégiés où je peux apprendre aujourd'hui à goûter la vie sans écran. Encore une fois, il ne s'agit pas de tomber dans la technophobie, de dire que les écrans et l'intelligence artificielle, tout ça est diabolique ou horrible, etc. Il y a beaucoup de choses positives à en tirer, mais simplement, elles viennent nous voler, ou nous nous laissons voler notre espace d'intimité avec le Seigneur, notre espace d'intimité avec nous-mêmes et avec les autres. Et donc, il faut nous décider avec courage, et donc là c'est un appel à la volonté, et effectivement, et choisir des moments privilégiés pour ça, pendant les vacances par exemple de l'été, puisqu'on n'est pas loin, pour dire, voilà, aujourd'hui je choisis, et nous choisissons idéalement en couple, en famille, des temps où nous nous aidons, où nous nous entraidons les uns les autres à parler jusqu'au bout, sans sortir un téléphone, pendant le temps du repas, à le premier réflexe du matin, ne pas sortir son téléphone, mais peut-être acheter un réveil pour avoir un vrai réveil normal, c'est un investissement relativement faible, mais qui va nous permettre peut-être, premier geste du jour, eh bien, de dire merci à Dieu pour le don de la vie, voilà, pour le soleil qui se lève, dire bonjour à nos proches, avant tout de suite d'aller voir notre téléphone avec nos notifications.
Alors, puisque vous parlez du réveil, vous parlez du téléphone portable, on se réveille comment? On se réveille à genoux et en prière, sans écran, ou on prend son téléphone portable et son application pour méditer l'évangile du jour et puis la prière du jour? Qu'est-ce que vous conseillez, Jean-Alexandre?
Moi, la première chose que je conseille, c'est effectivement, c'est de se réveiller avec un réveil qui ne soit pas digital, enfin, en tout cas, qui ne soit pas un écran connecté. Ça permet vraiment de mettre à distance et d'empêcher toute tentation. Et puis, de chercher à ce que les premiers gestes et les premières paroles du jour soient orientés, si on est croyant, évidemment, vers Dieu, pour remercier pour le don de la vie, et que ça passe par le corps. C'est-à-dire, ça peut être, première chose, je me lève, je me tiens debout, je me mets à genoux, je fais un lent signe de croix, je respire, c'est l'air de rien, je respire, j'inspire et j'expire pour prendre conscience de ce don du souffle qu'est l'esprit en moi. Et après, petit à petit, je vais prendre mes différentes activités, mes différents engagements, mais d'abord être des hommes et des femmes qui sont humains, des êtres spirituels, reliés, et pas être des machines tout de suite en se disant « le plus important, ce n'est pas la notification que j'ai vécue. La première chose qui est importante, c'est « ah tiens, je suis vivant aujourd'hui, je reçois le don de la vie, je reçois le don de la foi ». C'est ça la nouvelle du jour. Et c'est un niveau beaucoup plus profond, et ça touche effectivement, vous parlez du salut de l'âme. Merci Seigneur pour ce don de la vie. Si je suis baptisé, merci Seigneur pour ce don de la foi, ce don du baptême. Et voilà, et ça me suffit pour vivre la journée aujourd'hui. Le reste, après, on verra.
Alors, comment retrouver un peu cette unité intérieure?
Cette unité intérieure, déjà, il s'agit d'accepter que ce n'est pas moi qui vais la former. C'est-à-dire que l'unité intérieure, elle se reçoit. En revanche, ce qui dépend de moi, c'est de faire des choix pour que ma vie s'aligne dans une forme de cohérence et faire en sorte qu'il y ait un équilibre dans ma vie entre les temps où je suis connecté, bien sûr, mais aussi les temps de réflexion que nous avons déjà évoqués, les temps de relation aux autres, le temps de la prière, et découvrir petit à petit en moi cette unification qui se fait dans mon être humain, dans mon être filial d'enfant de Dieu, qui se fait petit à petit, mais aussi par un chemin de persévérance. Alors ça, c'est un point important, dont je parle aussi dans un chapitre de mon livre, qui est la place de l'effort. Ouais. Nous avons besoin de retrouver la valeur de l'effort et la valeur de l'exercice, de l'ascèse, pour nous permettre petit à petit, jour après jour, de résister à la facilité des écrans en vue de mettre dans nos quotidiens des choses qui sont un peu plus exigeantes, mais qui nous font vraiment grandir. Et ça, c'est un chemin d'unification.
Et donc, ce sont des choix aussi.
Oui.
Et personnels, individuels.
Alors, je dirais personnels, mais aussi qui peuvent reposer sur le collectif si, dans ma famille, dans ma communauté, dans un groupe d'amis, nous pouvons faire une sorte de pacte pour nous entraider, quand l'un est plus faible, à choisir ensemble. Moi, j'aime bien dire au niveau familial, voilà, poser une règle, de dire dans cet espace, pas de téléphone ou pas d'objet connecté. Dans tel moment, la soirée familiale, pas de téléphone, pas d'objet connecté, sauf s'il y a vraiment besoin. Et tout le monde le respecte. Et ça va aider les uns les autres à vivre la joie d'un jeu de société gratuit, sans écran. C'est génial. C'est tout simple.
Donc il y a des choix à faire, hein. Tout simple.
Tout à
voilà,
fait.
Voilà. Ouais, c'est une manière aussi de résister à notre monde numérique.
Oui, hein. Voilà, on a besoin de courage et d'actes simples comme ça.
Voilà, mais de courage. Hein. Oui. Voilà, il faut être déterminé, persévérant.
Persévérant,
hein.
Voilà.
Éviter le découragement. Hein.
Oui, tout à fait.
Parce qu'il peut y avoir aussi des chutes.
Bien sûr,
mais
c'est pas grave, on recommence.
Hein. On se relève pour reprendre cette stature debout du vivant.
Voilà, ressusciter.
Oui. Ressusciter. Frère Jean-Alexandre de Garidel, auteur de ce livre paru il y a quelques mois, que l'on peut se procurer, « Dieu crève l'écran, repère spirituel en temps d'hyperconnexion », de très bons outils, donc une bonne lecture. À demain, même lieu, même heure.